Est-ce que Michel est en ligne, Mathilde? Ah, Michel, oui. Vous êtes là?
Oui, tout à fait.
Bonsoir Michel, c'est un peu spécial ce soir, il y a des
oui,
jeunes
je
étudiants qui nous ont rejoints sur la terrasse. Parce que, voilà.
Michel.
C'est Michel. Michel, vous pouvez vous présenter?
Oui,
de quoi vous vouliez
fait.
Nous parler?
Écoutez,
vous pouvez vous adresser
moi,
à tous mes amis et réciproquement.
Vous féliciter comme l'avaient fait les femmes hier au téléphone. Et je voulais vous dire, vous étiez sans doute la révélation radiophonique cette année. Et que parce que vous aviez les mots et aussi que vous aviez la ponctuation, les points, les virgules, les points d'interrogation, les points d'exclamation, les parenthèses. Ça, c'était pas mal à retrouver dans une émission radiophonique.
Et si je peux me permettre également les silences.
Tout à fait, ça va avec, bien évidemment. Ça, c'est un premier point. Le second point, je vous téléphone pour deux.
Je vous en prie.
Je suis deux aujourd'hui.
Vous êtes deux. Ben nous, on est six, sept,
oui.
huit.
Parce que je voudrais vous parler de quelqu'un auquel je suis très attachée et d'une histoire un petit peu particulière. Alors, je vais tenter de commencer le plus simplement possible. Je suis la sœur d'un homme qui vient d'écrire un petit livre de 35 pages qui vient d'être édité.
Oh non, pas de pub. Oh, Michel, je vous en supplie.
Non,
j'ai raccroché au nez à une auditrice qui voulait me vendre son livre. Oh, non, pitié, pas
oui,
ça.
Oui, Mathilde, elle me l'a dit.
Oh,
non, c'est pas du tout le but de la manœuvre.
Alors, non,
c'est
je vais pas faire publicité pour un livre. Non, je vous en supplie.
On est le 11 novembre.
Oui.
C'était pourtant pour rendre hommage à l'histoire de ce petit livre. Voilà. Qui est comme une carte
de visite.
Un petit livre, c'est une carte de visite.
Alors, vous y parlez du 11 novembre et des festivités de la guerre 14-18.
De cette époque, exactement.
D'accord.
Voilà. Mon frère, passionné par cette époque, car chez ma grand-mère, il y avait là un cadre de poilu, rouge et bleu, magnifique, et qui l'avait sans doute impressionné, ou alors la grand-mère avait couché avec un poilu, je l'ai pas su. Mais en tous les cas, il a été passionné de cette époque, et donc quasi collectionneur, y compris de cartes postales, des gens qui racontaient les drames qu'ils avaient vécus, ou les gens, quand ils parlaient des gens qu'ils avaient aimés, et pour qui c'était très important. Et un jour, il découvre une lettre de quelqu'un qui était un marin sur un cuirassé, qui s'appelait le Lorraine, et qui racontait que quelques jours plus tôt, le Gambetta, un autre cuirassé, avait été abattu par des Allemands. Voilà. Et le cuirassé est tombé d'un seul coup dans la mer, tout droit. Il ne s'est pas penché, donc il y a eu 650 jeunes de 20 ans qui étaient sur le bateau, et il y a eu 138 sauvés, et tout le restant a été mort en quelques minutes. Donc c'était une histoire plutôt triste, une espèce de boue marine qui restait là, importante, marquée, et effectivement contre lequel on peut se poser des questions maintenant, si demain ça devait arriver. Ça resterait toujours quand même de la chair à canon, entre guillemets.
Bien sûr, bien sûr.
Et ça, c'est une chose. Mais, entre-temps, qui a abattu ce cuirassé? C'est effectivement des Allemands, dans un sous-marin. Et c'était finalement un Allemand qui a été très, très félicité après, qui s'appelait George von Trapp, qui était un homme qui a épousé après plus tard une Anglaise. Et ils se sont sauvés parce qu'il était israélite. Il vivait en Autriche, il a été suivi par effectivement bien les Allemands qui voulaient l'attraper, et il s'est sauvé aux États-Unis. Et son histoire a tellement été extraordinaire qu'ils en ont fait une comédie musicale qu'ils appelaient The Sound of Music, la mélodie du bonheur. Alors vous voyez que le destin est parfois
Maxime, ça vous inspire quelque chose?
Ça m'inspire que les horreurs de la guerre sont immuables finalement, et que heureusement il y a des traces, écrites, des traces picturales qui nous rappellent à l'ordre. L'esprit va-t-en-guerre existe toujours, malheureusement. Ce sont toujours les décideurs qui envoie la chair à canon, qui sur des navires, qui au front, et dans cette époque de géopolitique un peu trouble, où on ne sait pas trop où ça risque de nous amener, c'est bon de se, sou- de, de se souvenir de tout ça.
Qui veut réagir sur la guerre ? Qui veut réagir sur la guerre, qu'elle soit actuelle ou ancienne ? Victor ?
Oui, ben...
Ah oui, ah, Julien, il n'a pas parlé depuis longtemps, vas-y. Julien.
Non, mais c'est parce que moi, je fais des recherches sur les guerres.
Ah.
Et c'est la modélisation, hein. Franchement.
Ouais, mais c'est plus des maths, mais...
Laisse-le parler, laissez parler, Julien. Laissez parler, Julien.
Mais non, je suis plutôt d'accord avec ce qui a été dit. Je pense qu'on a un devoir de mémoire qui est fondamental. Mais ça ne suffira pas pour prévenir les guerres futures. Faut pas non
c'est
plus.
Probable.
Non, mais c'est même sûr.
Est-ce que tu crois, Julien, que les guerres traditionnelles ont encore de l'avenir ? Parce qu'on s'aperçoit pourtant que la guerre en Ukraine a tout de la tradition de la guerre au sens conflit du XXe siècle. Elle a des relents de guerre du Vietnam, c'est-à-dire une superpuissance contre des locaux et une superpuissance qui est en train de se faire humilier par des locaux. Finalement, tu enlèves les drones, c'est quand même avec des armes traditionnelles. C'est quand même un État qui en agresse un autre. Donc la guerre type 21e siècle, on a l'impression que c'était presque plus la guerre du Golfe, où il y avait une option zéro mort, que cette guerre d'Ukraine qui fait finalement figure de guerre totalement traditionnelle, non ?
Je suis d'accord sur le fait que on a vraiment cette guerre traditionnelle, mais encore une fois, c'est sur le continent européen. Par exemple, si on regarde sur le continent africain, c'est pas du tout des guerres traditionnelles.
Ah oui, mais je pourrais te rétorquer que la guerre mondiale pour un Brésilien, la seconde guerre mondiale et la première guerre mondiale pour un Brésilien n'a aucun sens.
Mais tout à fait. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que par exemple, il y a un facteur qui joue de plus en plus dans les conflits armés, c'est le réchauffement climatique. Et peut-être qu'on le voit aussi avec la guerre en Ukraine, avec le problème de l'approvisionnement du blé, etc. Mais si on prend par exemple sur le continent africain, on a des modèles qui montrent qu'on va avoir une géographie des conflits totalement différente, due aux sécheresses, etc. Et bon, je sors un peu du sujet, ennuyer les gens, mais... Non, mais
tu sais très bien que derrière tous les déclenchements des guerres, les causes sont souvent économiques. Personne ne pense que la guerre 14-18 a eu lieu parce que un assassinat a eu lieu à Sarajevo. Personne, à part dans les livres d'histoire... on sait très bien que les causes du déclenchement, c'est pas Franz Ferdinand qui s'est fait assassiner. Non, mais on le sait bien.
Non, bien sûr.
La Seconde Guerre mondiale, c'est différent. C'est une sorte d'apax. Mais la guerre en Ukraine, c'est pour des raisons aussi tout à fait économiques et non pas simplement ultranationalistes. Et ce que tu dis est tout à fait juste. Les enjeux de demain, ça sera l'eau, le pétrole, le gaz et le réchauffement climatique qui déclenchera des phénomènes migratoires
et des mouvements de population. Avec des tensions sur les marchés du
travail. Qui voudrait réagir sur la guerre par rapport au témoignage de Michel ? Victor ?
Oui. Moi, je voudrais rajouter que je parle pour les gens de mon âge, c'est-à-dire 25, 20, 20 ans. Ce qui est très compliqué, c'est que, en fait, on ne sait pas ce qu'est une guerre. On nous en parle, on lit.
C'est vrai.
Mais on ne sait pas, on n'est pas marqué. C'est-à-dire qu'on a des témoignages qui sont très lointains déjà, qui remontent à nos arrière-grands-parents ou voilà. Ce qui est compliqué, c'est que j'ai l'impression que le fait de ne pas savoir et de ne pas se rattacher à des événements qui sont presque ancrés dans la chair, dans une espèce de vécu un peu intérieur. Fait que certains, et je le vois, de notre âge, recherchent finalement l'affrontement.
Bien sûr.
Mais j'ai une réflexion. Moi, je suis né en 1968. Et je me dis, je ne sais pas ce qu'en pensent les auditeurs, ils peuvent nous rejoindre pour discuter de ça. Le monde que j'ai connu quand j'étais enfant, dans les années 70, c'était un monde, en France je parle, d'une très grande richesse, parce que je pouvais côtoyer des gens qui avaient fait 14-18. Je pouvais côtoyer des gens qui avaient fait 39-45. Je pouvais côtoyer des gens qui avaient fait l'Indochine. Je pouvais côtoyer des gens qui avaient fait la guerre d'Algérie. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde a le même passé, le même passif, le même vécu, et que finalement, on est des générations sans guerre, et que nos discours sont tous plus ou moins greffés les uns sur les autres, parce que finalement, on a une expérience commune, et qui est une expérience de tout, sauf la guerre. Et si on voit le mal là où il n'est pas, par exemple... Quand vous dites mademoiselle au lieu de madame au lieu de mademoiselle, etc., ça nous paraît quelque chose de très grave. Ce qui fait que quand le véritable mal, MAL, arrive quelque part, comme la guerre, on est sidéré comme des lapins devant des phares parce qu'on est incapable de reconnaître le vrai mal. Nous sommes des enfants gâtés, en fait, quand on est né à la fin des années 60. Depuis la fin des années 60, je veux dire.
Mais si je peux me permettre, oui. Non, mais allez-y, pardon.
On est obligé de penser là avec l'Ukraine, pas loin de en Europe et tout ça, que au fond, il serait très très facile de recommencer. Peut-être moins de jeunes, peut-être pas aussi jeunes, mais le problème se reposerait finalement sans doute de la même manière, plus ou moins. Et que c'est quand même incroyable. Comme si on ne comprenait rien ou qu'on n'avait rien compris pendant toutes ces années.
C'est quand même je pense que.
1915. C'est loin.
C'est très loin, et malheureusement, 1940, c'est de plus en plus loin aussi, y compris dans la mémoire collective, où seuls les gens qui disons, s'interrogent beaucoup plus que la moyenne, ont ça en tête, mais de plus en plus, ça s'émousse dans la mémoire collective sociétale. Et de toute façon, l'humain est le même aujourd'hui qu'en 1915, qu'en 1940, qu'en 1870.
Quelle époque de Saint-Simon, hein. Il y a Edmond qui voudrait intervenir. Absolument. Edmond, mon cher Edmond, allez-y, vas-y.
J'entends très mal Edmond.
On t'entend pas, Edmond.
Oui, moi,
pourtant, je parle devant le micro. Oui. Hein, j'essaye de.
Tiens, prends le mien.
Et pour beaucoup, la guerre de Troie n'a pas eu lieu. Et pour les Français ou les Occidentaux qui sont un peu déconnectés, je pense qu'il y a une. C'est assez symptomatique. Il y a cette déconnexion qui fait que qu'elle soit passée, qu'elle soit présente, potentiellement future, il y a sorte de barrière intellectuelle vis-à-vis de la guerre qui a lieu parce que, je sais pas, on essaye d'opérer la politique de l'autruche, on se cache.
Mais vous qui avez 25 ans, vous êtes une génération, là, depuis quelques années, vous avez pris les attentats de Charlie Hebdo en 2015, vous avez pris le Bataclan, vous avez pris le confinement et le Covid. Là, vous prenez l'anxiogénité d'une guerre nucléaire qui vole au-dessus de vos crânes. Est-ce que c'est pas dur aujourd'hui d'avoir 20-25 ans, même si la question peut être d'une banalité insondable, est-ce que c'est pas dur d'avoir vécu ces 10 dernières années, son adolescence, sa post-adolescence, dans ce climat anxiogène? Julien me dit que non. Fait des signes.
Mais quelque part, la société de consommation aide à fuir en fait. Toujours, il y a toujours un renouvellement des moyens de fuite vis-à-vis de ces pressions extérieures qui sont pour la plupart exogènes. Par exemple, le risque terroriste qui viendrait de l'extérieur ou parfois de l'intérieur, mais on l'assimile forcément à des attaques qui sont djihadistes,
à de l'extérieur.
Djihadistes. Pareil, l'Ukraine, c'est sur le continent européen, c'est dans un environnement européen, mais ça reste quand même assez extérieur, éloigné. Donc quoi qu'il advienne, en fait, on met toujours une distance avec ce qui arrive, et c'est dommage.
Alors ça, c'est dingue, il y a Victor Tronchet qui nous rejoint quand même sur le toit d'Europe. Alors ça, c'est mythique.
Bravo. Je m'adapte.
Il a grimpé.
Alors là,
bravo. Il a grimpé.
C'est quand même un des trois présentateurs les plus sérieux de la station depuis sa création en 1955.
L'un des trois, qui sont les deux autres?
Il y en a un qui est mort en 1963 et l'autre en avril 1978. Un des plus sérieux, et il nous rejoint sur le toit.
Il est trop sérieux, il devrait boire. Voilà.
Non, jamais.
Jamais au travail.
C'est quelqu'un d'extrêmement sérieux. On va vous donner évidemment la parole dans quelques minutes, mon cher Victor, pour votre bulletin d'information. Mais sur l'anxiogénité, Julien, tu avais l'air de dire que non, pour toi, ça s'est bien passé, tous ces épisodes. On t'entend pas, le micro de Julien est défectueux.
Vous m'entendez?
Ah voilà, rapproche-toi un peu.
Je dis pas que c'était. Bien sûr, il y a une forme d'anxiété, mais par exemple, sur le risque de la guerre nucléaire. Je ne me lève pas tous les matins en me disant que peut-être qu'on prendra une bombe nucléaire sur la tête. Moi, je me souviens d'avoir une discussion avec mes grands-parents qui ont connu la guerre froide. Et je leur ai demandé, mais ça ne vous faisait pas peur, ce conflit, qu'à tout moment, pouvait y avoir une attaque nucléaire, etc. Ils m'ont dit non, on le voyait dans les journaux, mais dans la vie de tous les jours, on ne le ressentait pas. Et je n'ai pas l'impression qu'on le ressent tous les jours. Je pense que ça serait presque un peu malhonnête de dire qu'on se lève le matin en étant angoissé par une...
Et quand vous étiez ado, vous avez quand même pris les attentats.
On a pris les...
Ça, oui, c'était anxiogène, non?
C'était anxiogène.
C'est vrai, c'est... quelque part, c'est différent.
Ouais, non, c'est,
oui, c'est différent. Non, je parlais d'anxiogénité.
Moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'était Samuel Paty.
On va en parler après les infos. Okay.
Il y a une forme, je sais pas, d'anxiété, mais c'est pas quelque chose de qui nous prend tous les jours à la gorge ou au ventre.
D'accord.
Europe 1, la libre antenne. Yann Moix.
encore une heure à passer en votre compagnie si agréable sur Europe 1. Nous sommes sur le toit de la station. Il y a des jeunes qui m'ont rejoint, qui voulaient absolument participer à l'émission. Nous sommes en ligne toujours avec Michel et notre ami Maxime. Et ce que je souhaitais aborder comme sujet avec les jeunes qui m'ont rejoint tout à l'heure, c'est les sujets en fait, qui sont un peu anxiogènes pour la société. Notamment, j'entendais juste avant le flash d'information, puisque je leur demandais, ils ont été adolescents au moment du Bataclan, au moment de Charlie, ce qui les avait vraiment cisaillés moralement ces dernières années. Et j'ai entendu évidemment le nom de Samuel Paty, juste avant le bulletin d'information, surgir de notre conversation. Qui voudrait intervenir sur ce sujet ? Ce que ça a représenté pour vous comme traumatisme, vous qui sortez de vos études ou qui y êtes encore ?
Moi, ça a été la sauvagerie à l'état pur, qu'on puisse prendre un mec dans la rue, juste l'égorger comme ça. Aussi pour tout ce qu'il représentait, mais je sais pas, pour moi, le fait qu'il ait été décapité, pour moi, c'était l'acte de violence absolue. Mon père est aussi professeur, donc peut-être que ça a joué. Mais je sais pas, le fait qu'on attaque par le biais d'une personne, aussi la République, toute une institution. Mais enfin, je sais pas, on parle d'une vie humaine qui s'est arrêtée. Après, qu'on croit ou pas dans la vie après la mort, peu importe, mais ce mec n'est plus là. Et je sais pas, moi, ça m'a terrifié de me dire que, pour des raisons idéologiques, peu importe, on puisse...
Il n'est plus là et il est exécuté d'une manière totalement inédite sur le sol français, surtout en ce siècle. C'est-à-dire que la décapitation, absolument, ça renvoie quand même à des périodes médiévales. La dernière fois qu'on a coupé des nuques, c'était pendant la Révolution française. Et encore, il y avait une sorte, j'allais dire, de protocole de la guillotine. Il y avait une mise en loi de la guillotine, même si le tribunal qui expédiait les gens sous la lame était souvent expéditive. Mais il y avait un protocole. Là, effectivement, c'est un acte de barbarie. Qui voudrait intervenir sur... Alors, oui, Edmond.
Au-delà de... Oui, je vous laisse la parole. Au-delà de ce côté protocolaire, c'est effectivement la mort au coin de la rue. Et c'est ça qui crée, en fait, une... Et puis, bon, l'insécurité, c'est un terme galvaudé, mais il y a l'histoire de mort au coin de la rue qui fait que c'est très effrayant de déambuler dans la rue et, de revendiquer une fonction qui est finalement très républicaine.
Victor.
Oui, ce qui est aussi très inquiétant, bon, par exemple, moi, je suis étudiant en lettres, donc évidemment, je passerai le CAPES ou l'agrégation. Enfin, voilà, je suis amené à enseigner. Ce qui est inquiétant, c'est le symbole aussi, surtout, c'est d'exécuter un professeur. Bon, pour moi, je n'ai pas eu que des bons professeurs, mais j'ai eu quand même des professeurs très, très serviables et qui m'ont tout appris, qui m'ont fait grandir. Ce qui est inquiétant, c'est le fait de vouloir couper presque à la racine, en fait, la transmission de la connaissance, de l'esprit critique. C'est cette chose-là, moi, qui m'inquiète. Et puis, on voit bien que les professeurs sont de plus en plus un petit peu laissés. Voilà, ils sont un peu... eux-mêmes se sentent un peu seuls et démunis face à des enjeux qui les dépassent. Parfois, les enjeux de religion qui sont très compliqués, les enjeux de...
Par leur hiérarchie, souvent.
Oui, face à la hiérarchie, mais ça, c'est le cas de tout un tas de domaines, de milieux professionnels. Non, bien sûr, ça ne justifie rien. Mais le fait est qu'en plus, les professeurs sont en première ligne et ils ont une responsabilité qui est majeure et qui pèse sur leurs épaules. Et c'est en ça que le métier de... que l'enseignement est quelque chose d'extrêmement noble, malgré les conditions parfois un petit peu difficiles, enfin très difficiles même. Ils construisent la société de demain et le fait de vouloir supprimer cet individu, supprimer Samuel Paty, moi je trouve que le symbole est très inquiétant et inquiétant également pour ce que sont les professeurs.
Moi, je voudrais juste signaler, c'est juste un truc,
tu rappelles ton prénom,
moi je m'appelle Edouard.
Et tu étudies?
Je faisais de la philosophie, maintenant je fais des lettres.
D'accord.
Et c'est vrai que c'est très important pour moi l'idée de république des professeurs. C'est un truc qui date de la Troisième République. Là, ils ont attaqué, comme tu disais, à la racine. Et c'est vrai que symboliquement, c'est une puissance. On sent qu'ils maîtrisent un peu tout ça, les dire ceux qui ont voulu attaquer justement ce symbole très fort. Et donc du coup, je sais pas, il y a ce côté très bizarre en fait entre une sorte de Moyen-Âge, enfin avec l'idée de la décapitation et des médias de masse en même temps. Voilà une sorte de truc un peu technologique.
Vous êtes pas troublé, vous qui avez étudié la philosophie et l'être, vous êtes pas troublé par ce quelque chose qui m'a toujours fasciné moi dans le terrorisme et les actes de barbarie, c'est la disproportion qu'il y a entre l'acte commis par des gens de piètre qualité intellectuelle ou culturelle. J'enlève Mohamed Merah de cette histoire parce qu'il était intellectuellement plutôt... il s'est avéré que Merah était intellectuellement plutôt bien structuré. Mais par exemple, l'assassin de Samuel Paty ou certains assassins du Bataclan terroristes. Vous n'êtes pas étonné par la disproportion qu'il y a entre la débilité, la violence, la barbarie de l'acte et ce qu'on injecte d'intellectualisme, d'analyse, de philosophie, de pédagogie, d'acuité intellectuelle dans l'acte en lui-même. C'est-à-dire cette disproportion entre une décapitation et tout le corpus qu'on va greffer dessus pour penser cet acte. Ce qui est intéressant, parce que ce qui est très flatteur pour notre pays, c'est qu'on injecte de la réflexion dans des actes qui, parfois, n'en méritent pas tant que ça. Mais est-ce que vous êtes intéressé par cette disproportion? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, Victor?
Oui, c'est la disproportion en plus c'est quelque chose qui nous connaît bien puisqu'on a généralement en tant qu'étudiant en lettres, en philosophie, on a tendance à tout commenter et à tout intellectualiser.
C'est-à-dire que les terroristes commettent un acte et plein d'intellectuels vont relire le Coran, comprendre ce que c'est que l'islam, le soufisme, le chiisme, le sunnisme, etc.
Chose que ces gens-là n'ont généralement en plus pas lu.
Jamais.
Voilà, ils connaissent pas. Mais en même temps, les sujets sont tellement sensibles et je pense que, à la fois malheureusement et heureusement, c'est aussi la responsabilité des gens qui étudient la philosophie, qui étudient l'histoire, qui étudient la sociologie, c'est de comprendre et d'essayer de trouver, qui sont parfois des raisons qui sont inexactes ou un petit peu intellectualisantes, mais d'essayer de ne pas trop simplifier justement parce qu'on sait très très bien vers quel glissement ensuite on peut arriver facilement en trouvant une explication, je ne sais pas, un petit peu... réactionnaire, un petit peu. Voilà.
Edmond et ensuite Maxime et peut-être Michel. Alors attends, Edmond et ensuite Maxime, et si Michel est en ligne avec nous, elle peut réagir.
Oui, évidemment. Bien
oui, mais on vous donne la parole tout de suite, ma chère Michel. Edmond, okay, Maxime et vous, Michel.
Ce sera très court. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'imprescriptible qui constitue un défi à la pensée. On sait que Jean Kelevich a travaillé sur l'imprescriptible. Alors toute proportion gardée, parce qu'il travaillait sur le système concentrationnaire et puis voilà, donc ce génocide-là. Mais toujours lorsqu'il s'agit de penser l'impensable, lorsque forcément on fait des minutes de silence qui sont plutôt justes, qui méritent déjà...
Quand elles sont respectées,
effectivement, il faut le notifier. Mais si on fait des minutes de silence, précisément parce que les mots ne comptent plus, ne sont plus assez forts pour exprimer une analyse, voire parfois un sentiment lui-même. Et c'est une sorte de tâche. Alors est-ce qu'il faut que chaque philosophe en soit le parangon? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut partir sur les routes pour essayer de être l'avocat de chaque cause? Mais parfois, il faut essayer, peut-être en tant qu'étudiant, c'est une sorte d'enthousiasme peut-être étudiantin, de chercher à comprendre. Aussi, c'est une forme c'est un moyen de se rassurer, peut-être, quand on rationalise quand on met des mots sur des choses qui sont aussi dures que celles-ci. Parce que
c'est aussi peut-être parce qu'on est un pays qui peut se flatter d'être encore, et c'est peut-être ce qui lui reste de plus important, à la pointe de la réflexion, malgré tout. C'est-à-dire quand on voit les grands pays qu'on aime, comme les États-Unis, le Japon, etc., la Chine, il n'y a pas actuellement de très grands intellectuels. Aux États-Unis, il n'y en a plus beaucoup. Dans les années 70-80, il y avait des grands intellectuels américains. Et j'ai l'impression qu'en France, il en reste encore quelques-uns et qui... essaye de prendre à bras le corps, y compris les sujets dont les acteurs sont peut-être parfois des débiles, mais les actes qu'ils commettent ont un signifiant plus fort que les acteurs en question. Donc ça nous force quand même à intellectualiser quelque chose qui a été interprété par de simples interprètes, justement. Et la question... Maxime, vous nous suivez? Ça vous dérange si je donne la parole à Michel? Maxime, elle n'a pas parlé depuis longtemps.
Ah non, absolument pas.
J'écoute. Je pense simplement que depuis ces dernières années, avec tout ce qui s'y est passé, on a quand même une attention de reconnaissance envers les victimes, quelles qu'elles soient. Peu importe, attentat, pas attentat, un drame personnel d'une personne, la reconnaissance est là.
Attendez, je ne comprends pas, parce que les attentats et un drame personnel, ce n'est pas tout à fait la même chose.
Je veux dire par là on reconnaît le drame des victimes. On les reconnaît.
Ah oui,
on les remet en exergue.
Oui, oui. On leur redonne leur dignité à travers ce qu'ils ont enduré. Oui, voilà. D'accord.
Alors qu'inversement, à l'époque de ces guerres, l'honneur, à part l'honneur et le fait de devoir être patriote et de payer pour la nation, il n'y avait rien d'autre. Ils sont morts gratuits, pas reconnus, ou très peu. Là, un livre comme ça, un petit truc par hasard. Mais vraiment, sinon, ça n'intéresse. Vous voyez,
parlez
c'est
des poilus.
Inconnu au bataillon.
Vous parlez des poilus.
Non, pas des poilus. Je parle des jeunes qui ont été à la guerre en 14-18.
Oui, donc des poilus,
jeunes.
Oui.
20 ans, oui.
Oui, mais on appelle ça les poilus,
oui,
les jeunes qui sont partis à la guerre
oui,
de 14-18.
Oui, vous avez raison, c'était cela. Et l'intérêt de mon frère pour ce personnage unique et sûrement souffrant, en souffrance, quoi, d'une sûre. Les gens qui partent à la guerre à 20 ans, c'est arrivé à mon père, ça a été pareil, ça fait 10 ans épouvantable. Donc si vous voulez, on part le dos baissé et rien d'autre à dire. Alors que maintenant, dans ces guerres intestines et horribles, la victime reprend sa place quand même, avec dignité, effectivement. Mmh. Ça me
Marguerite
semble très
intervenir.
Important.
Oui, moi je rebondis sur ce que vous disiez à l'instant, Michel. Sur ces guerres qui sont ces jeunes qui ont un esprit patriotique et qui sont prêts à partir à la guerre. Je voulais demander à mes camarades si aujourd'hui il y avait un appel appel à la guerre, est-ce que vous seriez prêts à partir peut-être?
Bien vu.
Qui pourrait répondre à cette question?
c'est très compliqué de répondre à cette question parce que en théorie, oui, il y a un livre de Pierre Bayard qui est très intéressant, qui s'appelle « Aurais-je été bourreau ou résistant ?» Et justement, il essaie de comprendre et d'imaginer ce qu'il aurait fait, lui, en 1940, à la place de son père. En fait, oui, en théorie, bah, oui, peut-être, je serais prêt à partir en guerre pour défendre la France. Ce qui est compliqué actuellement, c'est qu'en réalité, la France, la nation, ce sont des notions qui sont tellement abstraites et tellement critiquées et critiquables que ben en fait il est absolument pas certain que en réalité je sois prêt à partir.
D'ailleurs, vous aurez remarqué tous qu'on parle beaucoup de la République, on parle énormément de l'État, on parle pas tellement de la nation et jamais de la patrie. Le mot patrie, c'est un mot qui est disparu.
Ah oui,
ouais,
c'est vrai.
Julien. C'est normal, et là, ça s'explique.
Maxime, et je voudrais donner la parole à Julien, et je vous donne la parole, Maxime, après. Julien.
D'accord.
Micro de... Tiens, prends mon micro, Julien. Prends mon micro.
Merci beaucoup. Si la patrie a disparu, c'est parce que je pense que le patriotisme a disparu à l'école aussi. Moi, je me souviens d'une professeure qui m'a dit on n'enseigne plus du tout le patriotisme. Et c'est vrai que quand on prend les livres, l'enseignement historique qu'on a, il ne met plus du tout en avant ce qu'on pourrait appeler le patriotisme. Alors, c'est dur à définir le patriotisme, etc. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que le patriotisme est quelque chose qui est mal vu de nos jours.
C'est paradoxal, parce que dès qu'il y a un attentat et qu'un gendarme intervient et se fait tuer, tout d'un coup, ça devient un héros. Mais et il est enterré en héros au nom de la patrie. Donc, en fait, on passe notre vie à donner des légions d'honneur à des cercueils au nom de la patrie. Et on a l'impression que ce mot rejaillit de sa boîte uniquement quand il y a des Maccabées.
Exactement. Ouais.
On le ressent de manière aussi concrète. Enfin, moi, je sais que je suis parfois mal à l'aise quand je vois un drapeau français à un balcon, dans une voiture.
Bon,
je sais pas. En fait, c'est très étonnant.
Oui.
Je comprends même pas moi-même pourquoi.
C'est étrange, mais tu vas en Corée, au Japon,
oui,
t'as des
drapeaux partout. Bien sûr, en Suède.
Partout.
C'est très étonnant, c'est comme si j'avais une espèce de méfiance intérieure, un peu antécédente, face à toute représentation un peu ostentatoire de la patrie, de ce qu'elle
tu vas choquer beaucoup d'éditeurs.
Oui, je sais.
Notamment Maxime.
J'essaie de combattre ça.
Oui, c'est passionnant, franchement, à chaque fois que j'entends une phrase, j'ai envie de réagir.
Bah, vas-y, Maxime, vous allez pouvoir intervenir.
Ah ben, je n'aborderai pas tous les sujets, mais le dernier, à mon avis, est intriqué avec tous les autres. Le patriotisme. Il y a 40 ans encore, c'était une qualité. Ça veut simplement dire aimer son pays. C'est ça, le patriotisme. Je veux dire, il n'y a pas besoin de chercher d'autres définitions, c'est ça. Alors après, l'amour pour son pays, on peut le mettre à divers sauces, et on peut servir son pays de diverses façons également. L'art sert également le pays. Quelqu'un comme Charles Aznavour a apporté beaucoup à la chanson française et aux lettres françaises, et on peut citer des tonnes d'exemples dans le sport, ailleurs, bon, peu importe. Mais ça veut dire aimer son pays. Or, pourquoi aujourd'hui, patriotisme, c'est un mot un peu sale, en quelque sorte? Eh bien, l'explication est très simple. Il faut remonter aux années 70, je crois que c'est 74, la création du Front National. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu un véritable hold-up de la part de ce parti.
Je me demande si pas 1972, même, le Front National.
C'est bien possible. Et comme vous êtes hypermnésique, je vous fais confiance.
Quelqu'un va vérifier parmi les normaliens, là, si c'est 72 ou 74. Ils voulaient se présenter en 74, mais je me demande si le Front National n'a pas été créé en 72. Bon, il y a un normalien qui vérifie.
C'est très vrai. Ah bah, on va le savoir. Mais en tout cas, ce parti a fait un véritable...
Je
ne
me trompe jamais sur les dates, en général.
Il a fait un véritable 5 octobre 72. Ce parti... Sur 72, dont tac. Ce parti a fait un véritable hold-up sur les symboles de la France. La Marianne, le drapeau, Jeanne d'Arc. Et donc, tout ce qui a été utilisé et mis en avant par le Front National, il ne fallait surtout pas, pour être dans le camp du bien, l'aimer également. Vous aimez le drapeau français alors que le drapeau français est mis en avant par le Front National, le drapeau français, on le met de côté, parce que c'est sale, ça appartient au Front National, c'est un signe à ce moment-là ostentatoire d'appartenance politique. Et il ne faut pas oublier que le Front National, quand j'étais tout môme, c'était le symbole du diable en politique. Mon propos n'est pas de dire si c'était juste, si ceci, si cela, c'était cela. Et il en reste quelque chose. Donc le patriotisme, qui était à l'origine une valeur, aimer son pays, ça ne veut pas dire aller casser la figure à ceux du pays d'à côté, ça veut dire aimer son pays, en être fier et pourquoi pas porter les symboles comme le drapeau de son pays. Et ça s'est perdu. En revanche, on a accueilli, et je ne m'en plains pas, nombre de cultures ces 40 dernières années, même ces 60 dernières années, et on les a incités à promouvoir, à vivre leur culture. Quand il y a un match de foot aujourd'hui, comme il y a 30 ans, eh bien, on voit des drapeaux algériens, on voit des drapeaux marocains, des drapeaux de... Mais alors, le drapeau français, c'est forcément facho. Donc, forcément, ce hold-up initial du Front National sur les symboles français, allié à une mise en avant des autres cultures, ça a généré deux choses. Le racisme, qui est un mal humain, malheureusement, faut faire avec, c'est un des travers de l'humain, et ça a engendré une espèce de timidité, voire de froussardise, si vous me permettez ce néologisme, de la part des Français. Pour Samuel Paty,
je peux dire un mot sur Samuel Paty. Rapidement, Maxime.
Rapidement. Ouais. Samuel Paty, c'est malheureusement la chronique d'un...
Rapidement,
pas d'une mort annoncée, mais d'un crescendo, d'un emballement de la machine qui était malheureusement inéluctable. Il y a eu, dans un premier temps, cette jeune fille, élève, qui a tenté de manipuler son père, faible intellectuellement. Il y a eu quelques partisans, la mayonnaise est montée et on en est arrivé là. Alors sur le pourquoi on en est arrivé là, là il faudrait 3-4 minutes pour expliquer l'enchaînement, etc. Sur ce drame, excepté saluer cet homme, je pense qu'on doit quand même s'interroger sur le pourquoi, pour éviter que ça recommence. Et là, on arrive à la débâcle totale de l'éducation nationale depuis au moins une trentaine d'années. Dans le temps, il y avait des cours d'éducation civique et même morale, c'est-à-dire ce qui se fait ou non en société. Ça n'avait rien de facho et c'était bénéfique parce que le vivre ensemble, ça s'apprend d'abord à l'école.
Maxime, merci beaucoup. On va devoir vous laisser.